On est de retour sur les ondes de Choc FM 105.1 et on poursuit avec la chronique 20 de cette semaine. On retrouve notre collaborateur Jacques Paradis. Bonjour Jacques, comment vas-tu?
Bonjour William, ça va très bien, merci.
Jacques, cette semaine pour la chronique, on emploie la thématique en parlant du vin d'assemblage. Un vin d'assemblage, c'est le résultat d'un mélange de variétés de raisins. Là, j'ai peut-être l'air connaisseur quand je dis ça, mais Jacques, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par vin d'assemblage?
Oui, tu as raison. Alors, c'est exactement ça. C'est pas sorcier. Par vin d'assemblage, on veut dire un vin qui est réalisé en combinant différentes cuvées différentes qui habituellement proviennent de différentes variétés de raisins. Alors, on parle de vin d'assemblage en opposition à vin monocépage ou parfois on dit aussi vin de cépage. Alors, lorsqu'on dit simplement un Riesling ou un Cabernet Sauvignon, alors ça, ce sont des vins monocépage ou de cépage. Et puis, à l'autre extrême, ce qu'on a, des vins d'assemblage, ce sont des vins où il va y avoir plusieurs variétés de raisins qui vont entrer dans la fabrication du vin.
Et pourquoi mélanger les variétés de raisins pour arriver à un résultat comme celui-ci?
Le but premier, lorsqu'on assemble comme ça différents types de cépages, c'est habituellement le vinificateur veut réaliser un vin plus complexe qui, en bout de ligne, est plus que la somme de ses parties. Alors, on vise à créer une espèce de parfaite synergie, si on veut, hein, entre les différents caractères des cépages, de manière à déployer les plus belles qualités de chacun dans l'ensemble. Mais aussi, ça permet de miser sur les forces de chacun des cépages, puis de compenser les faiblesses, par exemple, d'un autre cépage. Alors, un cépage qui n'a pas beaucoup d'acidité, on va l'assembler avec un cépage qui a plus d'acidité. Alors, ça nous permet d'avoir une composition qui est mieux équilibrée. Alors, pour donner un exemple, par exemple, dans les vins qui sont faits dans les Côtes-du-Rhône, principalement dans le nord des Côtes-du-Rhône, alors en Côte-Rôti, par exemple, c'est traditionnel, lorsqu'on a une Syrah, hein, de mélanger entre 5 et 20 % de Viognier. Et le Viognier, en plus, c'est un vin blanc. Alors, on mélange un peu de vin blanc au vin de Syrah. Alors, lorsqu'on on prépare la dernière addition avant l'embouteillage. Alors, même s'il s'agit d'une petite quantité, hein, 5 à 10 ou 20 %, cette addition-là permet de relever les arômes du vin de Syrah, puis d'obtenir plus de profondeur, puis rend la couleur du vin aussi plus vive, plus attrayante. Et puis, de là, cette pratique-là s'est transmise aussi en Australie, où on produit beaucoup là, on l'appelle Shiraz. C'est le même cépage, hein. Syrah, on parle de Syrah en France. Okay. Puis en Australie, on parle de, et en Californie, de Shiraz. Et, alors là aussi, cette pratique-là est assez courante. Et notamment dans un climat qui est plus chaud, le Viognier est plus mûr, puis a des notes comme d'abricot qu'on va parfois distinguer dans le Shiraz d'Australie.
Donc, peu importe le vignoble qui les produit, on peut retrouver quand même le même cépage.
Oui, c'est ça. Il peut y avoir plus d'un cépage, mais en fait, le mot assemblage, on lui donne aussi un sens un peu plus large dans la vinification. Alors ici, là, on parle des assemblages de différents raisins, mais même pour un vin monocépage, souvent on va mettre ensemble les vins, par exemple, de même cépage, Riesling, mais qui proviennent de différents vignobles, parce qu'on sait que dans un certain vignoble qui est plus exposé au soleil, le raisin va être un petit peu plus mûr et tout ça. Alors, on essaie de, là aussi, combiner les forces et les faiblesses dans une certaine proportion pour obtenir le meilleur Riesling possible.
Donc, pour simplifier, si on veut, Jacques, on mélange une variété de raisins ensemble qui n'ont pas nécessairement le même goût pour aller chercher quoi? Une arôme différente, vraiment, lorsqu'embouteillé?
C'est ça, pour obtenir plus de complexité. Okay. Ou pour également compenser pour certaines faiblesses d'un cépage, parce que ce sont pas tous les cépages qui se prêtent bien à une vinification uniquement à partir de en eux-mêmes. Hein. Alors, le Riesling s'y prête bien, le Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, on voit souvent ces cépages-là comme cépages uniques sur une étiquette. Alors, ce sont des veines monocépages. Mais il y a plusieurs autres cépages qui se prêtent aussi bien à un assemblage et puis parfois vont être beaucoup mieux représentés dans un assemblage lorsqu'on les met ensemble avec d'autres cépages.
Et est-ce qu'on parle d'une pratique traditionnelle dans ce cas-là ou?
Oui, en fait, c'est rien de nouveau, les vins d'assemblage. Et puis, on l'a un petit peu oublié parce que récemment, avec la popularité des vins des nouveaux pays producteurs, hein, si on pense aux États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine, alors, tous ces pays-là ont principalement commercialisé leur vin avec une emphase sur le cépage.
Okay.
Hein? Alors, on parle d'un Cabernet Sauvignon, un Pinot Noir. Alors, c'est en gros caractère sur l'étiquette. Et c'est comme ça qu'on nomme le vin. À un tel point que souvent, on a l'impression que c'est presque comme une saveur. Hein? Alors, c'est comme ça, je veux un vin à saveur de Riesling, à saveur de Sauvignon blanc. Mais la tradition, en fait, plus ancienne du côté des pays européens comme la France, l'Italie et l'Espagne, c'était plutôt de commercialiser leur vin sous un nom de territoire.
OK.
Hein? Par exemple, on va acheter un Beaujolais.
Oui.
Et on mettait rarement, et encore souvent rarement, le nom du cépage. Mais en Beaujolais, c'était juste un cépage. C'était pas un vin d'assemblage. C'est un vin monocépage, mais qui est fait à partir de Gamay.
Est-ce qu'un Merlot, c'est le même cas aussi?
Oui, ben Merlot, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir un vin uniquement fait de Merlot qui provient de la France, mais à ce moment-là, on va mettre uniquement plutôt le nom de la région ou ce qu'on dit habituellement l'appellation sur l'étiquette. Alors ça, on a un petit peu perdu ça, c'est-à-dire que maintenant, les consommateurs s'attendent à voir un nom de cépage parce que ça leur donne un point de repère. Hein, ils ont l'impression que, bon, on sait ce que goûte un Sauvignon blanc. Alors, si on voit Sauvignon blanc sur l'étiquette, on sait à quoi s'attendre. De telle sorte que plusieurs pays traditionnels, par exemple la France, l'Italie, tout ça, maintenant vont ajouter, en plus du nom de l'appellation, on va mettre également le nom du cépage. On voit ça couramment maintenant pour, des vins de Pinot Noir.
Et ils n'ont pas la même appellation, mais un vin de monocépage, c'est un peu un vin d'assemblage, si on peut dire, mais c'est pas vraiment indiqué sur l'étiquette.
Tu touches à un autre point.
Okay.
C'est-à-dire qu'un vin monocépage, un vin où il y a uniquement le nom d'un cépage sur l'étiquette, c'est un vin qui est fait à partir de ce cépage-là.
OK.
Alors ça, c'est pas un vin d'assemblage au sens où on en parlait tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir...
Parce qu'il n'y a pas de variété, carrément. C'est seulement le monocépage, donc, inclus dans la bouteille.
C'est ce qu'on serait pensé à croire, à porter à croire. Mais en fait, c'est pas le cas. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Parce que la réglementation varie selon les pays, mais autorise habituellement l'addition de d'autres cépages que celui qui est sur l'étiquette dans un certain pourcentage. Par exemple, pour ici en Ontario, si vous achetez un vin qui porte le label VQA, alors ce sont des vins qui sont faits uniquement à partir de raisins qui ont été cultivés ici en Ontario. Alors, si vous avez un vin avec un seul cépage, il faut que 85% des raisins utilisés pour faire ce vin-là soient de la variété qui est indiquée sur l'étiquette. Ce qui veut dire que dans un Riesling, un Chardonnay, un Pinot Noir que vous achetez de l'Ontario, il peut y avoir jusqu'à 15% d'un autre cépage qui a été mis à contribution dans la fabrication de ce vin-là.
OK.
Mais on n'est pas obligé de l'indiquer sur l'étiquette. Si on va du côté des États-Unis, le minimum requis, c'est 75 %.
OK.
Alors, ça veut dire qu'un Chardonnay, vous achetez un vin, un Chardonnay des États-Unis, alors, on a droit, le producteur a droit de mettre des petites proportions d'un autre cépage dans cette cuvée-là, jusqu'à 25 %, sans avoir à indiquer ça sur l'étiquette.
Est-ce qu'on peut dire que le consommateur se fait un petit peu avoir en n'achetant pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'étiquette dans la bouteille?
Je pense pas, parce qu'en fait, c'est juste une façon de...
Ouais.
Souvent, c'est ça. Alors, ça permet de, justement, de relever un peu ces additions minimes-là, dans ces cas-là, En fait, c'est le but, c'est toujours de mettre davantage en valeur les saveurs puis le caractère du cépage principal dont le nom est indiqué sur l'étiquette. Mais tout ça pour dire, enfin, c'est une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit. Puis tout ça pour dire aussi que la pratique de l'assemblage, c'est vraiment un moyen pour améliorer les vins, pour nous donner des vins qui sont plus complexes.
On en a parlé quand même assez beaucoup, Jacques, mais as-tu des exemples classiques pour nous de vins rouges, de vins d'assemblage qu'on parle assez régulièrement et qu'on voit sur toutes les tablettes ici de la LCBO en Ontario?
Oui, en fait, il y a plusieurs, comme je dirais presque, de recettes d'assemblage hein, qui ont fait tradition parce que c'était des bonnes façons d'assembler des cépages qui allaient bien ensemble. On peut penser, par exemple, au Bordeaux. Hein, lorsqu'on parle de Bordeaux, il y a plusieurs cépages qui sont admis par l'appellation. Les trois principaux, c'est Cabernet Sauvignon, Merlot et Cabernet Franc. Alors, un Bordeaux, c'est un assemblage de essentiellement ces trois cépages-là, okay, en majorité, puis parfois avec quelques autres comme Petit Verdot, Carménère qu'on peut mettre, mais en proportion beaucoup moindre. Et alors, c'est un type d'assemblage qui est tellement traditionnel, puis qui peut tellement donner de bons vins.
Est-ce que c'est le plus connu, si on peut dire, Jacques? Ou?
C'est sans doute l'un des mieux connus, oui. Puis, il est si populaire qu'il a même donné place aux États-Unis à la création d'un néologisme qu'on appelle « meritage », hein, comme on dirait en français « méritage », mm-hmm, on le prononce à la française. Et puis, c'est un terme qui rime avec heritage, héritage. Et ce que ça désigne, alors c'est non seulement un néologisme, mais c'est une marque déposée qui désigne des vins d'assemblage de type bordelais, alors qui sont faits à partir des mêmes raisins que l'on utilise à Bordeaux, mais qui sont des États-Unis, principalement de la Californie. Alors, vous allez, si vous voyez meritage sur une étiquette, c'est ce que ça désigne. Alors, c'est un assemblage de type bordelais. Mais comme, évidemment, là, on est aux États-Unis, on ne peut pas mettre sur l'étiquette Bordeaux des États-Unis. Alors, là, ça, évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Un autre grand type classique, ce sont les assemblages des Côtes-du-Rhône. Alors, surtout dans la partie sud du Rhône. Alors, les Côtes-du-Rhône, c'est un assemblage du cépage Grenache, Mourvèdre et Syrah. Alors, c'est un style qui est apprécié, qui est bien connu. Puis, selon les proportions que l'on met pour chaque cépage, alors on obtient aussi des variantes là, importantes dans le style. C'est ce qui a inspiré, par exemple, les vins d'assemblage de la vinerie sud-africaine Fairview. Vous avez peut-être vu cette étiquette « Goat's Drone ». Alors, qui est une espèce de jeu de mots, bon, qui signifie, dans le fond, les chèvres sont dans le pâturage ou vont errer, et qui sonne comme Côte du Rhône, Goats du Rhône. Et c'est un petit vin rouge qui est vraiment bien fait, puis qui est un assemblage de Syrah, de Mourvèdre et de Grenache et de quelques autres cépages également.
Donc, on parle des trois principaux exemples classiques pour les vins d'assemblage concernant les vins rouges.
Oui, ben en fait, Bordeaux, ça nous en fait deux, Bordeaux et Côte-du-Rhône, et puis Meritage, ben là, évidemment, c'est une adaptation que l'on a fait du côté américain. Alors, pour reprendre cette espèce de recette classique, mais aux États-Unis. Et puis d'ailleurs, du côté si vous avez le goût d'essayer cette variante sud-africaine des Côtes-du-Rhône, si vous ne l'avez pas essayé, c'est un petit vin qui est très bien fait, saveur de fruits, d'épices, qui demeure simple, qui a pas mal de corps, puis qui est offert à un prix incroyable de $12.95.
OK.
Et jusqu'au 1er mars, il est même en solde Alors, il est à 11,95.
Donc, il est disponible dans tous les succursales de la LCBO?
Dans la plupart des succursales. C'est un vin de la LCBO, non pas de vintage.
Et j'imagine que sur les tablettes, là, des catégories spéciales, lorsqu'on rentre dans la LCBO, c'est quand même assez bien identifié, donc où les bouteilles sont assemblées en spécial lors de cette semaine-là, j'imagine?
Parfois, oui, elles sont en bout d'allée, mais sinon, ces vins-là se retrouvent, sont classés par pays. Alors, dans ce cas-là, c'est un vin d'Afrique du Sud. Alors, il se retrouve sur les tablettes de ce rayon-là.
Donc, c'est une bonne manière pour contrer la fin de l'hiver, ben, du moins, on l'espère, et le temps froid. Peut-être aller chercher une petite bouteille comme ça, réconfortante, Jacques?
Oui. On ne peut pas se tromper.
On ne peut pas se tromper. Exactement. Un gros merci, Jacques, encore une fois, très intéressant cette semaine en parlant des vins d'assemblage démystifiés. C'était quoi exactement? Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci, Jacques.